Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur Point d'orgue, votre rendez-vous de musique sacrée. J'espère que vous allez bien, moi oui. Et nous allons aujourd'hui encore, comme d'habitude, entendre d'autres nouvelles du répertoire, du beau répertoire, du grand répertoire. Bienvenue dans Point d'orgue. Et sans plus attendre, nous allons entrer aujourd'hui dans l'un des moments les plus intenses de l'année liturgique. Il s'agit de la Semaine Sainte, nous y sommes enfin. C'est ce temps si particulier du carême, une période où tout dans la liturgie semble se dépouiller à l'extrême pour aller à l'essentiel. Le silence, qui fait partie de la musique, je vous le rappelle, y prend une place nouvelle. La parole, vous l'avez remarqué, je pense, se fait beaucoup plus grave. Et forcément, la musique, elle aussi, change radicalement de visage et parfois pour notre plus grand plaisir. Car il faut bien comprendre que la musique liturgique n'est jamais décorative, c'est pas du superflu, c'est pas pour faire plaisir aux musiciens, elle est un langage, un vrai langage théologique. Et durant le carême, ce langage se transforme profondément et là aussi, je pense que vous pouvez vous en rendre compte assez vite parce que on abandonne une forme d'éclat. On renonce par exemple à la virtuosité de certains morceaux et on suspend parfois même certains chants, je pense notamment au Gloria ou à l'Alléluia, qui là sont totalement bannis. Mais attention, il ne s'agit pas d'un appauvrissement, mais d'une véritable tension. Cette tension, elle est faite pour une chose, elle tend vers un point, un objectif culminant. Il s'agit bien entendu de la passion et donc de la mort du Christ. Alors par conséquent, la musique de ce temps ne cherche plus à séduire, vous en doutez, elle cherche à habiter le mystère, elle devient plus intérieure, plus austère, et parfois presque nue, et vous allez vous en rendre compte. Mais dans ce dépouillement se révèle une intensité que je trouve, à titre personnel, vraiment tout à fait exceptionnelle, et ça donne forcément une grande densité spirituelle qui, elle, a inspiré certains des plus grands chefs-d'œuvre de toute l'histoire de la musique, et nous allons pouvoir en écouter quelques-uns. Et alors bien sûr, c'est particulièrement vrai pour les jours du Triduum Pascal, c'est-à-dire ces trois jours qui vont du Jeudi Saint au Samedi Saint, là où la liturgie met en scène presque dramatiquement les derniers jours du Christ, les derniers moments du Christ, à savoir la scène, l'agonie, la passion, la mort, puis le silence du tombeau. Et en fait, au cœur de cette dramaturgie liturgique se trouvent des offices aujourd'hui connus du grand public, mais absolument fascinants, les offices des ténèbres. Alors, effectivement, ils sont moins connus, hein, ces offices, mais ça reste quelque chose de totalement exceptionnel. Si vous avez la chance d'en avoir autour de chez vous, ben, je vous invite à y aller. Car les ténèbres, ce sont les offices des matines et des laudes des trois derniers jours de la Semaine Sainte, on vient de vous le dire, jeudi, vendredi et samedi. Et traditionnellement, ces offices-là sont célébrés la veille au soir. Alors, on pourrait penser que c'est là une contradiction. Pas tout à fait, en fait, parce qu'il y a forcément un grand jeu de contraste entre la lumière et les ténèbres. Évidemment, cela se porte beaucoup avec le soir. Alors, le nom de ces offices vient d'un élément visuel qui est très fort, qui est l'extinction progressive des cierges dans l'église. Alors, normalement, traditionnellement, vous avez un grand chandelier triangulaire appelé herse qui porte 15 bougies et après chaque psaume ou chaque lecture, une bougie est éteinte jusqu'à plonger l'église dans l'obscurité la plus totale. La plus totale ou presque en vérité parce que il va y avoir une seule bougie qui va rester qui, elle, représente le Christ. D'ailleurs, il y a un jeu de texture entre les différentes bougies. On prend des bougies à cire jaune qui représentent toutes les autres et celle du milieu, la centrale, celle du Christ, elle, est blanche. Alors, vous l'avez compris, ce n'est pas un simple effet esthétique, c'est une symbolique qui est puissante. La lumière qui disparaît, c'est celle du Christ abandonné, trahi, livré à la mort. Et forcément, dans cette obscurité, la musique prend une dimension presque dramatique. Et les textes chantés sont parmi les plus poignants de toute la liturgie. Enfin, je parle avec mon point de vue, bien sûr, mais vous allez entendre avec les lamentations de Jérémie. Alors là, on n'aura pas le temps de les écouter, mais écoutez, hein, que ce soit dans le grégorien ou la polyphonie, il y a des merveilles, les psaumes et surtout les réponses qui vont beaucoup nous intéresser aujourd'hui. Ces réponses sont de véritables méditations musicales sur la passion et en fait, ils alternent entre narration, commentaires et supplications, et c'est dans ce contexte que de nombreux compositeurs ont écrit des cycles d'une intensité exceptionnelle, et parmi eux, un des grands maîtres absolus de la Renaissance espagnole, Tomás Luis de Victoria. Alors avec lui, la musique des ténèbres atteint un sommet d'expressivité contenue, une forme de mysticisme sonore, vraiment d'une très grande et d'une très rare profondeur. Et donc nous allons écouter certains extraits de ces réponses des ténèbres. En fait, les deux premiers réponses, bien sûr, on ne peut pas tous les passer à eux seuls, ils représentent plus d'une heure de musique. Alors, Tomás Luis de Victoria, il naît en 1548 à Ávila, en Espagne, dans une ville qui est marquée par la spiritualité de Thérèse d'Ávila. Lui, il est très tôt formé à la musique, il part à Rome, où il devient l'un des grands représentants de la polyphonie sacrée à la fin de la Renaissance, aux côtés de la grande star de l'époque, j'ai nommé Palestrina. Mais contrairement à ce dernier, Victoria développe un langage beaucoup plus expressif, plus sombre, plus directement émotionnel. Sa musique est profondément marquée par la spiritualité espagnole, c'est-à-dire une foi intense, intériorisée, parfois presque mystique. Et alors, ces réponses des ténèbres, publiées en 1585, constituent l'un de ses cycles les plus aboutis. Chaque réponse correspond à un moment précis de la passion, et Victoria y déploie une écriture d'une immense finesse, alternant des passages imitatifs et des accords homophoniques avec des jeux de dissonances expressives, et également des silences qui sont très lourds de sens, ce qui fait que la musique semble presque littéralement respirer avec le texte. Ce que l'on entend, c'est pas seulement une mise en musique, c'est une méditation, une contemplation sonore du mystère, de la passion. Alors, sans plus attendre, je vous invite à écouter ces deux premiers réponses de Tomás Luis de Victoria, Amicus meus osculi et Judas mercador pessimus. les deux premiers magnifiques répons de Thomas Louis de Victoria, une musique merveilleuse. Et là aussi, il faut imaginer, en plus de l'incroyable musique que vous avez à entendre, il faut imaginer le décorum, si j'ose dire, avec cet office si particulier, dans l'église plongée dans l'obscurité, le chœur qui est là au loin, et ces bougies qui s'éteignent les unes après les autres, au rythme de cette musique si extraordinaire, et les psaumes qui s'enchaînent avec les lamentations de Jérémie. Un très très bel office donc. Si vous avez la chance d'en avoir près de chez vous, eh bien, courez, parce que je pense que c'est une belle manière de passer sa semaine sainte en prière. Et même si vous n'êtes pas croyant, cela permet de passer un très bon moment musical. Maintenant que nous en avons fini avec ce premier compositeur, on va totalement changer de style. Après cette plongée dans la Renaissance espagnole, on va faire un saut de plusieurs siècles et également un saut géographique, car la force de ces textes et de ses offices est telle qu'ils ont continué à inspirer les autres compositeurs jusqu'au XXe siècle et même au-delà, et même dans un langage musical totalement différent, vous allez l'entendre, mais pour autant leur puissance demeure intacte, et c'est notamment le cas avec Francis Poulenc. On ne change pas une équipe qui gagne, je continue à défendre la production artistique de cet immense compositeur. Alors vous le savez, compositeur français du XXe siècle, c'est une figure tout à fait singulière. Il fait partie du groupe des Six dans sa jeunesse, c'est un groupe de six grands musiciens de talent, d'ailleurs qui ont fricoté avec à peu près tout le domaine des arts. Et il évolue d'abord dans un univers qui est léger, parfois ironique, comique, on peut penser notamment avec des dîners assez arrosés, avec Cocteau par exemple. Mais dans la vie de Poulenc, il y a un tournant spirituel important dans les années 30 qui transforme profondément son écriture. Et à partir de là, il compose une grande quantité de musique sacrée. Et cette musique est marquée par une sincérité et une intensité émotionnelle très forte. Son motet Tenebrae Facti Sunt, que nous allons entendre dans quelques instants, s'inscrit pleinement dans cette veine. Le texte est tiré de la liturgie du Vendredi Saint et il décrit l'obscurité qui recouvre la terre, au moment de la mort du Christ. Les ténèbres se firent sur toute la terre. Voilà, ça commence par ça. Et musicalement, Poulenc, vous allez l'entendre, il adopte un langage harmonique moderne, mais toujours très lisible. Il joue sur les contrastes, les suspensions, les tensions harmoniques. Elles sont très très expressives. Tous ces artifices-là sont vraiment très expressifs. Et en fait, l'écriture chorale est à la fois dense et extrêmement précise et très fidèle au texte. Par exemple, vous allez entendre les voix « Et inclinato capite », comme si la tête descendait lentement vers le sol. Vous allez l'entendre, c'est absolument prodigieux. Il y a chez Poulenc une manière très directe de toucher l'auditeur, sans détour. Là où Victoria, lui, méditait dans une forme d'équilibre, Poulenc, lui, exprime une véritable angoisse. Vous allez l'entendre dans ce morceau qui est en plus extrêmement contrasté. L'angoisse y a vraiment toute sa place. La douleur y est presque palpable. Alors on va maintenant écouter ce Tenebrae Facti Sunt de Francis Poulenc, ici interprété par le fantastique chœur de Cambridge, de Trinity College. C'est une œuvre magique de Francis Poulenc, Ténébré, Facte sunt, vous avez entendu cette œuvre hyper contrastée, ces voix voce magna, pourquoi m'as-tu abandonné, cette tête qui s'incline dans la douleur, tout le génie expressif de Francis Poulenc en une seule partition, si j'ose dire. Alors évidemment, c'est de la musique qui peut parfois être difficile à écouter, mais ô combien forte, non seulement par le texte qu'elle suit, mais en même temps qu'elle sublime. C'est de la musique extraordinaire. Et je vous invite à découvrir les trois autres motets pour un temps de pénitence de Francis Poulenc. Il en a écrit plusieurs, de véritables petites merveilles, elles aussi. Et alors, après cette vision du XXe siècle, nous allons maintenant revenir vers une autre époque charnière, le début du XVIIIe siècle, avec un compositeur italien dont une œuvre en particulier est devenue emblématique de la douleur musicale. Je vous présente Antonio Lotti. Alors Antonio Lotti, il est né en 1667 à Venise et c'est un compositeur de la période baroque tardive. Alors il faut savoir que tout ce qui est Venise à l'époque du baroque et également avant de la Renaissance, c'est le fief de la grande musique sacrée. Ça rivalise même avec Rome. On peut penser à d'immenses compositeurs comme Gabrielli, Schütz et puis plus tard Vivaldi, un grand héros de musiciens donc. Et il a, lui, principalement travaillé à la basilique Saint-Marc, rien que ça, où il a occupé des fonctions importantes comme organiste puis maître de chapelle. Le style de Lotti se situe à la croisée des influences. Ça, c'est extrêmement intéressant. Il est héritier de la polyphonie ancienne, donc un petit peu ce que nous avons pu entendre avec Victoria, mais déjà tourné vers une expressivité plus verticale, plus harmonique. Effectivement, on sent que le baroque est en train de passer et de souffler par là. Et alors, parmi ses œuvres les plus célèbres figure le Crucifixus à 8 voix qui est souvent extrait de son credo, lui. Alors vous savez que dans le credo, effectivement, il y a souvent toute une grande mise en musique et évidemment, le Crucifixus qui est au milieu du credo tient une place tout à fait particulière. On peut penser en cela à celui de la messe en si de Jean-Sébastien Bach, par exemple. Mais revenons à nos moutons, à Lotti en l'occurrence, et à ce fameux Crucifixus. Alors c'est une pièce brève, mais elle est d'une intensité exceptionnelle. Le texte est minimal, Crucifixus etiam pro nobis, il a été crucifié pour nous, et après effectivement on a les petits développements, notamment avec Ponce Pilate. Et pourtant, en quelques minutes seulement, en trois petites minutes, Lotti construit une montée dramatique saisissante. Vous allez l'entendre dès le début en fait, l'écriture à 8 voix permet une richesse harmonique impressionnante, les entrées successives des voix, notamment au début de l'œuvre, créent une sorte de vague sonore. En plus, vous allez entendre le son qui vient se déformer avec ses demi-tons, comme si les échardes du bois de la croix rentraient dans la chair du Christ. Il y a une progression lente, mais inexorable, vers un sommet de tension, et pour cause, il s'agit du cœur de la passion, de la crucifixion du Christ. Les dissonances sont particulièrement marquées, je vous le disais, d'autres compositeurs ont utilisé ces artifices-là, mais là, ça représente véritablement la douleur, il n'y a pas de doute possible. Et puis, tout retombe. Vous allez l'entendre, il y a un côté beaucoup plus narratif que l'on entend. C'est une musique de la suspension, de la gravité et du bois de la croix. Une musique qui n'a pas vraiment d'effet spectaculaire, mais qui atteint une puissance émotionnelle rare. Écoutons donc le Crucifixus à 8 voix d'Antonio Lotti, ici interprété par les Cambridge Singers. Thank you. Et c'est dans ce calme retrouvé, peut-être l'espérance de la résurrection, que se termine cette œuvre extraordinaire de Loti. Voilà, mesdames et messieurs, chers auditeurs, que nous avons traversé plusieurs siècles de musique sacrée avec un même mystère, celui de la passion, de la polyphonie intériorisée de Victoria, à l'expressivité moderne de Poulenc, jusqu'à la densité dramatique de Loti. Une même question traverse ses œuvres, comment traduire en musique l'indicible? Comment rendre audible la souffrance, le silence, l'abandon? Mais également, vous l'avez entendu avec cette fin, l'espérance qui se cache au cœur même de ces ténèbres, et bien tout simplement en écoutant cette belle et fantastique musique qui, elle, arrive bien à rendre compte parfois de l'ineffable. J'espère que ce tour musical vous a plu. Je vous souhaite une très belle semaine et à très bientôt sur Point d'Orgue.